Et bien, docteur Kaim, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. L'essentiel étant que vous soyez là. Alors, on est très heureux de vous recevoir. On avait eu le plaisir de vous recevoir au mois de février dernier. Vous veniez de faire paraître l'enlèvement des Sabines, qui était un texte extrêmement puissant, à la fois drôle et en même temps assez noir, en tout cas je pense, autour de la question, enfin de mille questions, mais entre autres autour de la question de la position des femmes dans la société et des différentes figures que pouvait prendre l'oppression à leur endroit. Et puis, nous vous retrouvons, vous faites la rentrée de janvier et la rentrée de septembre, je pense que c'est une première pour vous, et on vous retrouve avec un texte, Le prince à la petite tasse, qui paraît chez Calman Levy, et qui est un livre beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux, même s'il a sa part d'ombre aussi. Et donc, vous avez, ce qu'on comprend au fil du texte, que finalement, vous avez eu, presque malgré vous, je pense, vous allez vous en expliquer, si l'on peut dire, deux livres en gestation en même temps, deux jumeaux qui ont paru à 6 mois d'écart. Donc, cet enlèvement des Sabines et ce prince à la petite tasse. Alors, ce prince à la petite tasse, c'est un Afghan, c'est un jeune Afghan qui s'appelle Reza, mais qui ne s'appelle pas seulement le Reza, on y reviendra, et qui arrive chez vous, pas complètement par hasard, mais parce que vous l'avez souhaité. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment ce prince, et de quelle façon il est prince, ça on le verra aussi, mais comment cette personne est arrivée chez vous, faisant un membre de la famille en plus ?
Oui, alors c'est très facile de répondre à cette question parce que il s'est à peu près rien passé avant que Reza arrive chez nous. Je me souviens plus des choses précisément et à force d'en parler, je pense que je les déforme de plus en plus. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'on n'en a jamais parlé vraiment en famille avant que Reza arrive. Et j'ai très simplement demandé un jour à mes enfants et à leur papa s'ils seraient d'accord pour qu'un migrant, un réfugié vienne vivre à la maison. Et comme ils m'ont dit oui tout de suite, ça n'a pas été plus compliqué que ça. J'ai contacté le SAMU social de Paris qui met en relation des particuliers et des personnes réfugiées. Alors en fait, non, ce qui était assez drôle, c'est qu'avant d'appeler le SAMU social, j'ai appelé une autre assoce qui s'appelle CALM, C-A-L-M, comme à la maison, qui, elle aussi, met en lien des particuliers et des réfugiés. Et ils ne m'ont pas répondu tout de suite, donc j'ai appelé le SAMU social. Et puis, au moment où le SAMU, qui, lui, m'a répondu extrêmement vite, m'a dit « Oui, oui, très bien, nous avons un jeune homme, un jeune Afghan qui peut arriver aussi vite que possible chez vous », l'autre assoce m'a appelé et m'a dit « C'est bon, nous avons quelqu'un. C'est une femme tibétaine qui a, je crois, une soixantaine d'années. » Donc voilà, donc j'imagine quelle toute autre histoire ça aurait été à quelques heures près, à quelques jours près, si c'est cette femme tibétaine qui était venue vivre chez nous, puisque il y a évidemment rien de générique, hein, dans un accueil. C'est quelque chose d'absolument singulier, c'est une rencontre au sens le plus personnel, le plus intime qui soit. Donc le fait que ce soit ce jeune homme afghan et pas n'importe quel jeune homme afghan, mais celui-là, c'était encore une chose très très particulière.
Oui, on y reviendra. Je pense que l'un des intérêts, l'une des forces du livre, c'est le déploiement, l'énergie que vous mettez justement à montrer à quel point ce qui importe, c'est le caractère singulier de la personne que vous recevez, l'individu, et pas dans l'abstraction, simplement un migrant. Mais vous répondez à la question sans y répondre, puisque vous nous dites comment vous avez proposé l'idée à votre famille, mais cette idée elle-même, comment est-ce qu'elle vous est venue à vous et pourquoi est-ce qu'elle vous est venue ? Parce que ce n'est pas une aventure commune.
Enfin, oui, je n'essaie pas de fuir la question. C'est qu'en réalité, il faut imaginer, enfin, je pense qu'on la vit tous, cette expérience, c'est-à-dire qu'on est assailli d'images qui fait qu'on ne peut pas ne pas avoir vu toutes ces personnes agglutinées sur des bateaux qui arrivent à nos frontières, dont on sait que certaines finissent au fond de l'eau. Tout est une histoire de discours, en fait. C'est-à-dire que, quels que soient d'ailleurs les discours, hein, que ce soit des discours extrêmement hostiles ou des discours d'accueil, ce sont des mots. Et à un moment donné, les mots ne sont pas d'une grande efficacité. Je pense qu'en ce moment, on s'en rend assez bien compte. Donc moi, je vis à Paris. Et à ce moment-là, donc c'était en février l'année dernière, il y avait de plus en plus de tentes sous le métro aérien. rempli d'hommes, c'était essentiellement des hommes jeunes qui venaient de Syrie, d'Afghanistan, d'Érythrée, beaucoup de Syrie l'année dernière. Et donc évidemment, même si c'est pas passé par une réflexion très consciente, c'est évident qu'il y a quelque chose qui s'est accumulé. Alors, si je vois le versant négatif des choses, c'était sûrement quelque chose d'un sentiment vraiment d'impuissance. Ou un sentiment de tristesse qui fait qu'on se dit bon alors que puis-je faire, voilà. Mais une autre chose qui me paraît plus réelle, enfin qui correspond mieux à ce que peut-être j'ai ressenti, c'est de se dire que c'est forcément quelque chose de physique et de personnel, l'accueil. Évidemment, il y a des décisions qui se prennent à un niveau gouvernemental, qui sont politiques, qui sont collectives. Mais accueillir, c'est quelque chose d'absolument adressé. Donc la seule façon de prendre conscience, je ne sais pas comment dire, de prendre corps même avec cette situation, c'était de se retrouver avec quelqu'un. Moi, j'ai eu des expériences comme ça, un mélange comme ça, très théorique et très physique dans ma vie par le passé. C'est que pendant des années, j'en ai peut-être d'ailleurs déjà parlé ici, j'ai été visiteuse de prison dans une grande maison d'arrêt au sud de Paris, qui est Fresnes, dont vous avez forcément déjà entendu parler, pendant 12 ans environ. Et avant d'aller à Fresnes, j'y suis allée en me disant, bon, la question de la privation de liberté, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire qu'on punisse les crimes les plus graves par de la privation de liberté, qu'est-ce que ça dit de notre liberté, qu'est-ce qu'on peut pas nous retrancher de notre liberté, même dans un, voilà, qu'est-ce qui peut encore exister dans un parloir de liens qui échappe à la détention. Et puis après on se retrouve en face d'une personne réellement qui a un timbre de voix, qui a une famille, qui a des souvenirs d'enfance, qui nous montre des photos, qui bon. Et évidemment, les choses sont pas complètement absolument séparés, mais ce qui est sûr, c'est que l'idée de la rencontre, c'est précisément celle de la littérature. Quand on écrit un roman, c'est qu'on a bien conscience qu'on n'est pas en train d'écrire un essai et qu'il y a des choses qui achoppent sur le discours et sur la réflexion et qui n'existent que si elles s'incarnent, quoi, que si elles prennent corps dans un être humain. Et en l'occurrence, pas seulement un être humain qu'on pourrait décrire extérieurement et tout, mais le fait d'avoir son corps dans le même espace, c'est-à-dire un petit appartement à Paris, qu'une autre personne. Parce que c'est quand même une grosse anomalie. Parce que qu'est-ce qui a décidé tout ça ? Heureusement, pas grand-chose. Parce que si on y réfléchit, on se dit, non, je vais pas le faire. Parce que c'est une espèce de... Comment dire ? C'est une espèce de renversement d'un ordre, en fait. Un ordre très ancien, qui est l'ordre du foyer, où n'ont le droit de pénétrer que les amis les plus proches, que la famille. Et on sait qu'on vit quand même dans des sociétés où nos portes sont verrouillées. Alors qu'est-ce que ça veut dire de fermer à clé sa porte tout le temps ? On le fait, on protège nos vies, nos affaires, on fait quoi quand on fait ça ? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on ferme cette porte, on réaffirme quand même une sorte de peur immémorielle de l'étranger, qui peut être un brigand, qui pourrait être un violeur, qui pourrait être un animal sauvage, mais en tout cas c'est de la méfiance. Donc il y a une anomalie assez frappante à recevoir quelqu'un dont on ne sait rien, et surtout, imaginez ce qui se passe dans la peau de cette personne. C'est-à-dire que moi, je me souviens le premier jour quand Reza est arrivé à la maison. J'étais seule avec lui, parce que mes enfants n'étaient pas là. Ils étaient encore en vacances chez leurs grands-parents qui sont là, d'ailleurs. Et le papa de mes enfants était au travail, ou il était en vacances, peut-être. Enfin, en tout cas, j'étais seule avec Reza. Il prenait sa douche juste derrière moi. C'est-à-dire que j'étais adossée contre un mur, je lisais, et il était derrière ce mur et j'entendais prendre sa douche. Et je repérais les petits bruits, je savais exactement qu'il était en train de prendre le shampoing, le machin. Bon. Et je me disais, mais à quel point c'est insolite pour lui de se trouver nu dans l'appartement d'une inconnue, d'une étrangère pour lui aussi, dont il ne sait rien, dont il ne connaît pas la langue, dont il ne connaît pas la famille et chez qui il va habiter pendant un an. Donc en parlant de la décision d'accueillir, il faut imaginer que ce qui fait bloc et ce qui est familier, c'est les gens qui accueillent. C'est ça le point facile et le point de stabilité. En revanche, la personne qui accueille, c'est la position la plus délicate, la plus compliquée, parce qu'il faut tout déchiffrer, à commencer par le langage, qui est très très présent dans ce livre, puisqu'évidemment, on manquait d'une langue, évidemment, pour tisser des liens au départ. Donc, ça peut passer par mille autres choses, et il en est beaucoup question dans ce livre. Le fait de cuisiner ensemble, le fait de faire des origamis avec les enfants, le fait de s'observer, le fait... Bon. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on l'a redit, et que bon, on a un besoin très très puissant de dire les choses les plus simples. Voilà, on est des êtres de parole, et quand on manque de cette parole-là, c'est une grande, c'est une grande frustration. Puis pour celui qui le subit de plein fouet, c'est vraiment un exil dans l'exil. Quoi. Ne pas pouvoir parler sa langue, c'est quelque chose... même pour dire, j'ai envie d'une couverture, où se trouve le métro, enfin, les choses les plus anodines. Voilà. Donc, mais si je réponds comme ça à chaque question, on en a pour 6 heures.
Voilà. Alors, vous l'avez évoqué en passant, effectivement, ce livre est à plusieurs reprises, et on y reviendra entre autres... par la médiation de la poésie, mais vous profitez de ces questions d'incompréhension pour aussi dire tout votre propre amour de la langue, et spécifiquement de la langue qui est la vôtre, qui est la langue française. Et justement, pour rester sur cette question de l'accueil initial, il y a deux choses que vous pointez. La première, évidemment, c'est cette chose qu'on peut trouver ambivalente, mais qui est probablement surtout belle, qui est le fait que l'hôte désigne les deux. C'est-à-dire à la fois celui qui accueille et celui qui est accueilli. Et puis, il me semble aussi qu'il y a une donnée qui est très présente, même si c'est peut-être plus de façon plus nuancée dans le livre, qui est la question, je ne sais pas quel est le mot, on va dire religieuse, mais dans le sens où, au début du livre, vous allez avec Reza, parce que vous avez évoqué, mais vous êtes tombé sur le 1% de Reza est à une caractéristique religieuse très, très spécifique.
Oui, alors là, il faut expliquer quelque chose, parce que, bon, quand j'ai appris que Reza allait arriver, je partais du principe... Parce qu'en fait, on n'en a jamais fini avec nos a priori. Et dans les a priori, il reste des a priori et encore des a priori. Donc évidemment, quand Reza est arrivé, je dis évidemment parce que c'était une évidence pour moi, j'ai pensé qu'il était musulman et probablement pratiquant. Bon. Et comme j'habite à Paris, à côté de la Grande Mosquée, quand il est arrivé, on a fait un tour du quartier, je lui ai montré la place du marché, où on prenait le bus, où on prenait le métro. Et puis, sachant pas trop comment lui dire, je lui dis bon, bah, tu vois, ça c'est la mosquée la plus proche de la maison. Toi, c'est pratique, c'est à 3 minutes à pied. Bon. Et puis j'ai bien vu qu'il ne rebondissait pas vraiment là-dessus, puis qu'il me regardait d'une façon assez intense, comme s'il essayait de voir je ne sais pas quoi d'ailleurs, s'il pouvait me faire confiance peut-être. Et là, on a eu un dialogue assez drôle et improbable où il m'a dit je douche Norvège. Je dis t'as pris une douche en Norvège. Une douche chrétienne. Je dis ah, douche chrétienne, tu t'es fait baptiser en Norvège. Voilà. Donc je me suis retrouvée. Il s'est fait. Donc, il sait que ce jeune homme, pour résumer les choses, a quitté l'Afghanistan à l'âge de 12 ans. Il est allé ensuite en Iran, puis en Turquie, puis il a traversé la frontière pour passer en Europe, en Grèce. Il est passé en Albanie. Il a traversé toute l'Europe de l'Albanie à la Norvège, caché sous un camion. Ça fait quand même 3000 kilomètres. Il a fait une demande d'asile en Norvège qui a été refusée, mais pas tout de suite. Donc, il a d'abord essayé vraiment de vivre en Norvège. Il a appris la langue. Il parle couramment norvégien, ce qui était autre de ses particularités incroyables. Et il s'est notamment donc converti au protestantisme. Ça venait pas de nulle part. Sa mère était tadjik chrétienne, ce qui est rarissime. Hein. Il y a 1% de la population tadjik qui est chrétienne. Son père était musulman et comme il vivait en Afghanistan, c'était inimaginable d'avoir des parents... l'un chrétien, l'autre musulman, donc c'était une sorte de secret, et il n'en a jamais été question. Puis il est né en 95, donc il est né sous le régime des talibans. On peut imaginer qu'on va pas, on ne s'improvise pas une messe chrétienne, dans ce lieu, à ce moment-là de l'histoire afghane, en tout cas. Quand j'ai découvert à Paris le jour de son arrivée que ce jeune homme était protestant, c'était d'autant plus incroyable que je le suis moi-même, mais que je suis bien la seule de mon entourage à l'être. C'est-à-dire que ni mes enfants, ni leur père, ni mes amis, ni personne n'est pratiquant, n'est croyant, n'est bon. Et je me suis retrouvée à aller avec ce jeune Reza qui a changé son nom en Daniel. C'est pour ça qu'il nous a demandé de l'appeler Daniel et que moi-même, quand je l'appelle Reza, je fais l'effort de le faire, mais c'est pas le prénom qui me vient le plus naturellement. Je me suis retrouvée à aller au temple avec lui, ce qui était vraiment assez... Voilà, j'aurais pu imaginer beaucoup de choses avant de l'accueillir, mais pas me retrouver dans un temple protestant avec ce jeune afghan.
Il s'avère que ce jour-là, à la place du culte, il y a une intervention de la présidente de la CIMAD qui vous renvoie, pas à vous, mais à l'Assemblée évidemment, mais vous le prenez particulièrement pour vous, cette phrase évidemment qui est « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Et qui est, je pense, évidemment aussi l'un des... Alors, sur le versant religieux, je n'en sais rien, mais même comme pure injonction morale, l'un des déclencheurs, conscient ou non, de cette volonté d'accueil.
Oui, religieuse parce qu'on était dans ce lieu-là, mais évidemment, la question « qu'as-tu fait de ton frère ?», c'est une question humaniste. C'est... Ça répond à la toute première question, c'est-à-dire oui. Pourquoi faire ça ? Mais on fait ça sans savoir pourquoi, parce qu'évidemment qu'on est traversé par, je ne sais pas comment appeler ça, des valeurs, des devoirs plus grands que soi. Et c'est pas le fait qu'on n'en parle pas ou, enfin bref, ça existe au-delà du discours et même j'allais dire au-delà d'une pédagogie autour de ce discours. Parce que je me souviens du jour où donc Reza me montrait tous ces papiers un peu précieux qu'il avait bien gardés, voilà. Et donc ces papiers très précieux, c'était sa carte de résident pour 10 ans de réfugié, son passeport de réfugié, sa carte vitale. Qui était aussi toute une histoire, parce qu'il avait vraiment peine à croire que cette carte lui permettait d'être soigné gratuitement. Et quand je lui en ai apporté la preuve, parce qu'il était malade et que je l'ai traîné chez le médecin où il ne voulait pas aller, et ben j'étais toute fierotte de lui dire « Tu vois, on n'a rien payé, comme je te l'avais dit. » Et c'est quelque chose... c'est évidemment une fierté qu'on oublie tous les jours parce qu'on oublie à quel point ce système est rarissime sur Terre et précieux. À la fois celui de la sécurité sociale, celui de l'école gratuite, celui de pouvoir accéder à un jugement au tribunal gratuitement. Enfin, on pourrait faire toute la liste de nos services publics. Mais celui de la santé, pour Reza, qui venait de passer 10 ans dans des camps de réfugiés, à se planquer, à tomber malade, à ne pas pouvoir se soigner, etc. Il y a une sorte d'idéal mis en œuvre quand même, au sens vraiment de notre idéal révolutionnaire aussi. Enfin, je veux dire celui dont on a hérité de la Révolution française. Et parmi ces papiers donc précieux qu'il me montrait ce jour-là, il y avait un texte en farsi, parce que lui, sa langue natale, c'est le dari, c'est le persan qu'on parle en Afghanistan. Donc c'est comme le persan. Et donc il me montre cette feuille en persan, qui était en fait j'ai vu que c'était des articles de loi, quoi. Mais je ne savais pas ce que c'était, donc je lui demande, il me dit c'est déclaration. Et donc je comprends que c'était la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et c'était vraiment très très émouvant ce moment qui me montre ce papier où il était écrit en farsi et où il pouvait être écrit dans toutes les langues que nous déclarons collectivement que nous avons des droits naturels, voilà. Et ces droits naturels, c'est le droit à la liberté, le droit à la sûreté, la résistance à l'oppression. Ça me donne toujours envie de pleurer un peu, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc évidemment que c'est ça qui se passe, évidemment que toutes les questions qu'on se pose actuellement sur la question de l'accueil, elles sont absolument orientées sur qui nous accueillons. Alors que la question de l'accueil, elle est tout autre. C'est d'où vient l'accueil ? Que veut dire accueillir ? C'est pas une tradition, c'est pas une lubie, c'est pas un truc, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire de notre perception de l'être humain que de savoir que, en tant que Européens, en tant que Français, à un moment donné de notre histoire, dont on est les héritiers, qu'on le veuille ou non, on a décidé de reconnaître en tous les êtres humains des détenteurs de droits. Et qu'est-ce qui fait qu'on puisse être à la fois si fort de... C'est dans notre constitution quand même, hein, c'est au-dessus de toutes nos lois, c'est dans notre bloc de constitutionnalité, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse avoir ça en nous, que nos enfants l'apprennent à l'école, que moi, mes enfants, quand Daniel est arrivé, ils avaient 8 et 10 ans, et qu'à partir du moment où ça devient tout à fait concret, où on a des personnes qui sont précisément concernées par ce que viennent réveiller ces valeurs, alors elles tombent par terre et on dit non, mais là c'est autre chose, puis non, puis il y a le terrorisme islamique, et puis non, mais là c'est pas possible parce que ça a marché quand on a accueilli des Portugais, des Espagnols, mais là ça n'a rien à voir. Donc c'est quand même fou en fait cette capacité absolument puérile à ne pas voir qui nous sommes en fait. Des adultes au sens historique, ça veut dire comment nous avons grandi, comment nous sommes arrivés ici et comment, voilà, de quoi nous sommes porteurs. Ça n'a pas un rapport avec la question, ça.
Si. Tout un rapport avec la question. Avec cette double tradition, vous évoquez là la tradition de la Déclaration des droits de l'homme, mais on voit bien, même si ce n'est pas un fil que vous tirez beaucoup, qu'il y a aussi dans ce que vous évoquez dans le livre une autre tradition qui est l'hospitalité et l'hospitalité grecque, avec l'idée quand même que à quel point peut-être ce que fait Reza Daniel relève aussi d'une forme d'odyssée, c'est-à-dire d'une forme de fuite sans fin, même si là, au contraire, de s'orienter toujours vers le retour, on ne sait pas quel est le but final. Et ce qui marque quand même dans l'Odyssée d'Homère le rapport d'Ulysse à tous les gens qu'il rencontre, c'est justement la question de l'hospitalité. Et on sent qu'aussi, c'est quelque chose qui est présent dans, on va dire, une seconde tradition je ne sais pas s'il y a une justification à donner, mais qui légitime votre façon d'agir.
Mais alors, je ne sais pas s'il y a une justification, mais en tout cas, ça, c'est très réel parce que quand on essaie de résumer ce genre d'histoire, alors on va dire, bon, bah alors il a quitté son pays en guerre, il a fui, puis il est arrivé en France. Mais en fait, non. En fait, c'est 10 ans d'odyssée, effectivement, de rencontres qui sont, et loin s'en faut, pas toutes malheureuses. Daniel, il m'a beaucoup raconté à quel point les gens l'avaient aidé sur son parcours. Et comme il n'était pas possible qu'il en soit autrement. Ça veut dire que s'il y a un truc qu'on ne peut pas faire tout seul, c'est fuir comme ça, sans aucune aide, à plein de moments donnés. Enfin voilà, c'est sûr, 1000 fois sur le parcours, il faut qu'il y ait des gens qui vous tendent la main. Et la toute première chose que Reza a faite quand il est arrivé à la maison, c'est d'aller... il a acheté un poulet rôti, ce qui n'est pas très pratique, pour aller l'offrir aux gens avec qui il était sous le pont du métro Porte de la Chapelle. Et donc j'imaginais arriver avec son poulet rôti, à la fois je comprends, c'est très voilà, c'est convivial, c'est cuisiné, c'est bon. Mais cette question de l'Odyssée, c'était aussi l'idée que qu'on ne peut pas tout résumer à la tragédie, tout comme on ne résume pas d'ailleurs l'Odyssée, pourtant très tragique, d'Ulysse à sa tragédie. Et quand Daniel est arrivé, au tout début, on ne savait pas très bien de quoi lui parler, parce que comme on ne savait rien de lui, je ne savais pas s'il avait perdu toute sa famille, je ne savais rien. Donc j'avais dit quand même aux enfants, mollo, mollo sur les questions. Voilà. Et donc, de façon tout à fait neutre, mon fils aîné demande à Daniel, mais t'es passé par où? T'es passé par quel pays avant d'arriver en France? Question neutre, donc. Donc Daniel énumère l'Afghanistan, l'Iran, la Turquie, l'Albanie, là, tous les pays, jusqu'en Norvège, puis à nouveau de la Norvège en France, et puis entendant justement cette odyssée, tous ces noms exotiques de pays et tout, mon fils a fait « Oh, la chance !» Et vraiment, ce « la chance », moi, je me suis dit intérieurement « Quelle horreur, pourquoi il a dit ça ?» Mais en fait, j'ai bien vu sur le visage... de Reza qu'il était fier de cette réaction et qu'elle collait à quelque chose de la réalité. C'est-à-dire qu'évidemment, qu'il a bien dû se rendre compte de tout ce que ça sollicitait de courage en lui, de force d'affronter tous ces jours, ces mois, ces pays, ces uniformes. Et la question, on pourrait dire, formatrice aussi de l'Odyssée, fait qu'on prend conscience de tout ce dont on est empêché dans notre propre... vie sédentaire. C'est-à-dire que notre rapport au voyage, c'est pas un rapport de danger. Et ça l'est si peu qu'on a inventé des divertissements, enfin des voyages pour se faire peur, quoi. Des voyages qui permettent de faire, je sais pas quoi, du rafting hyper dangereux, du saut à l'élastique, du canyoning, du machin. Mais le fait qu'on provoque un sentiment de danger, ça peut être, oui, une sorte de vieille nostalgie grecque du fait que parfois, c'est la vie elle-même qui nous pousse au danger. Et qu'il n'y a rien de pervers dans cette attirance. Il y a quelque chose en soi dont on, voilà, qu'il y a quelque chose qui grandit et qui se forme dans ce rapport à l'épreuve. Voilà, parce que ce sont des épreuves. Ouais.
Alors, vous l'évoquez là, pour venir petit à petit à la singularité qu'est Reza. Effectivement, au début, donc, comme vous le dites, il bute sur la langue, évidemment. Même il y a jusqu'au point où il y a une scène très belle où lui dit en fait qu'il ne va pas y arriver à parler français, qui est un moment assez déchirant, je trouve. Et en même temps, dans ces cas-là, la médiation parfaite, finalement, ce sont les enfants et le jeu, et qui permettent, eux, de rentrer directement en contact, puisque vous parlez du langage universel des Descartes, par exemple, parce que vous avez des enfants qui ont la chance d'être privés d'écran, donc qui ont développé 1000 habiletés autres et 1000 autres intérêts. Mais... Pour en revenir donc à Reza, vous évoquez ce qu'on peut considérer comme étant, si l'on veut, votre générosité. Ce qui est assez frappant dans la personnalité qu'il est, c'est justement la question de son rapport à l'argent, puisqu'assez rapidement, il trouve un travail. Tout se passe plutôt bien. Il a de l'argent. Il vous confie son argent. Et puis, vous vous rendez compte assez rapidement que cet argent disparaît, si l'on veut, parce qu'en fait, de sa situation, il a besoin de faire quelque chose. Et ce quelque chose, en fait, c'est qu'il n'en finit plus d'aider tous les gens qui ne sont dans une situation pire que lui.
Oui.
Je ne sais pas si c'est le cas de tous les...
Non, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, il y a quelque chose de très drôle, c'est d'essayer de confronter deux logiques complètement différentes. C'est une espèce de logique de gestionnaire. Moi, je me disais, bon, il gagne 850 € par mois, donc le but du jeu, ça serait que... vu le prix d'un studio à Paris, en région parisienne, déjà, c'est très compliqué. Donc, c'est même pas qu'il faut être économe, c'est qu'il faut que c'est la multiplication des pains, là. Il faut faire très attention à ce qu'on... Bon, là, il était à la maison, ça il n'avait pas payé son loyer ni sa nourriture, mais comme c'était une situation provisoire, j'avais forcément un peu au fond de la tête le fait qu'il fallait, d'une certaine manière, qu'il apprenne à gérer son argent, comme on dit. Et c'était une pensée vraiment très, très... comment dire, naïf de ma part, puisque c'est pas qu'il n'avait pas remarqué combien... Il était quand même bien placé pour savoir ce que coûtait la vie, mais c'est que comme il s'était quand même débrouillé depuis 10 ans pour vivre en travaillant au noir, à droite, à gauche, qu'il s'était toujours trouvé un toit, etc., je pense qu'il n'avait pas vraiment de leçons à recevoir de ce point de vue-là. Mais qu'en revanche, il y avait une hiérarchie qui n'était pas du tout la même dans son esprit et dans le mien. C'est-à-dire qu'évidemment, lui, tout son argent, il le claquait entièrement, c'est-à-dire 100%. Parce que nous, on pourrait se dire, oui, il y a une sorte de on va allouer une partie de ce qu'on a généreusement à. Mais c'est dire notre rapport à la générosité qui est, voilà, nous c'est satellitaire quand même. Lui c'est tout son argent, il dépose tout son argent pour, le dire simplement, pour des plus mal lotis que lui. Donc en gros, quand je lui demande, même pas forcément plus mal lotis, c'est simplement pour d'autres que lui. Donc quand un jour on s'est un peu presque engueulé parce que il avait dépensé tout son argent, toutes ses économies, et puis je ne comprenais pas, je lui demande comment il a fait, et il m'explique tout ce qu'il a dépensé, et en gros, bah, il avait acheté à tout le monde plein de trucs, y compris des choses qui ne servent à rien, c'est-à-dire un téléphone portable super cher pour quelqu'un qui n'en avait plus, il avait prêté 700 euros à quelqu'un d'autre qui allait se marier en Afghanistan, enfin bon, et puis c'était tout le temps comme ça. Et j'ai compris que vraiment... il fallait que moi-même je comprenne ce que ça voulait dire et que quand on pouvait faire très très peu de choix en fait dans sa vie, que tout avait été décidé de façon extérieure, le fait de devoir quand même abandonner tous ses paysages d'enfance, tout son entourage, tous ses repères quoi, tout est uniquement voilà guidé par le besoin de se sauver, de se cacher, de passer des frontières, de trouver un lieu, de faire des démarches administratives pour être accueilli. Espérant être accueilli dans un endroit ou un autre, mais pas avec un profond sentiment d'élection. Ça veut dire, si l'Asie et la Norvège avant la France, c'est dire que tout faisait l'affaire du moment que quelqu'un voulait bien accepter sa demande. Le fait qu'il puisse, lui, décider de donner son argent, le pouvoir que ça lui donne, ce rapport à... évidemment, c'est une question de dignité, mais c'est autre chose aussi. C'est vraiment... Que peut-être quand on a fait comme ça l'expérience de situations très radicales, le rapport prudent à l'argent et économe n'a aucun sens. Les choses sont ressenties de façon trop forte et trop fragile pour qu'on se dise bah oui, je vais économiser comme ça, machin. C'est-à-dire, le comble du truc, c'est que dans mon quartier, c'est quand même lui qui a trouvé le moyen d'acheter des tentes quechua à une famille roumaine qui était à côté du métro et que nous, on croise tous depuis des années. Et donc, je me dis, c'est quand même ironique. Enfin, c'est fou. Enfin, ou honteux, ou je ne sais pas quel est le mot. Mais voilà, en tout cas, la question n'était pas celle d'avoir un budget, de savoir comment le dépenser. C'était le geste d'outrance de tout dépenser pour les autres. Ce que ça lui apporte, que ce soit total. Justement, ne pas garder, pas même 20%. Je crois que je ne suis pas à même de le comprendre, parce qu'il faut avoir ressenti des choses qu'il a vécu pour savoir quel sens ça a. Je fais que essayer de comprendre voilà, de ce que je vois, de ce, quel sens ça peut avoir.
On peut imaginer aussi que ce comportement, il est lié à une autre caractéristique de Reza, qu'il est, comme vous, formidablement têtu. Enfin, tel que vous vous décrivez. Hein. Mais que justement, puisqu'au final, que ce soit dans le livre ou même dans le parcours, c'est quelqu'un qui a non pas de la chance, mais qui manifestement a une capacité à se sortir des situations qui est assez remarquable, ne serait-ce que le parcours qu'il fait. Et on peut penser, jusque dans les discussions où ça vous emmène avec lui, c'est quelqu'un qui à la fois, et ça je pense que c'est aussi lié à la question de la langue, est parfaitement têtu dans ce qu'il veut faire, c'est qu'il sait très bien ce qu'il fait en dépensant tout, et vous ne le ferez pas thésauriser. et en même temps, sa façon d'être têtu, vous la sentez aussi justement autour de la question de la langue et la façon qu'il a de prendre les choses au premier degré. C'est-à-dire que tout ce qui est... il y a une page extrêmement drôle sur essayer de faire comprendre le sens de quand on dit « hop » dans une phrase. Ou « putain ». C'est-à-dire que le fait que l'infinie polysémie de ce genre de choses et la façon incroyablement tenace qu'il a d'essayer, en fait, expliquer ce que ça veut dire « hop ».
Hop, c'est très compliqué. C'est mais il faut comprendre déjà sa tenacité. C'est aussi de se dire que justement, quand on ne maîtrise pas une langue, c'est rassurant de penser qu'on peut s'accorder sur le sens d'un mot. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas encore le mot, mais si on l'apprend, alors... on va accéder à quelque chose. Et ben en fait, c'est plus compliqué que ça. Et là, voilà, ce jour où il m'a demandé ce que voulait dire hop, moi je lui dis, bah, c'est hyper facile, hop, ça veut dire... Et là, j'essaie de lui expliquer, ça a donné lieu à une longue, longue conversation. Et donc, il ne comprenait pas, j'essayais d'expliquer, j'étais visiblement pas claire, parce que c'est compliqué, est-ce que c'est que hop? Donc, il me disait, mais je comprends pas, c'est un hop ou une hop d'abord? Je dis, non, c'est ni un hop, ni une hop, c'est bon. Il me dit, c'est de quelle couleur un hop? Ça n'a pas de couleur un hop. Il me dit, bon, bah, montre-moi un hop sur Google. Je dis, je peux pas te montrer un hop sur Google, parce que un hop, ça n'existe pas, en fait. Donc, il me dit, mais tout existe. Tout quelque chose existe, il m'a dit. Je dis oui, tout existe, mais le hop, c'est une interjection. En fait, c'est juste un petit mot pour dire hop, hop, c'est, tu vois, c'est un truc vers le haut. Hop, quand on est content, on a fait son travail, hop, ou quelque chose est terminé, hop. Et puis, alors, il comprenait de moins en moins. Et puis, j'ai fini par lui dire, écoute, tu sais, en fait, hop, c'est hyper compliqué. Et il me dit, mais vous avez dit que hop, c'est très simple. Je dis oui, mais bon. Et en fait, c'était c'est le fait qu'il soit têtu là-dessus. Pour moi qui écris, qui passe mon temps à écrire, qui ne fait qu'écrire des romans, c'est mon seul métier. Et ben c'était évidemment très bouleversant parce qu'il y a cette idée que l'espèce de trésor qu'on a en commun, de savoir ce que veulent dire les mots, d'en comprendre les nuances, de pouvoir se les dire ou se les dire à mi-mot ou faire ce qu'on appelle lire entre les lignes, c'est une aptitude qui est tellement longue, qui vient de tellement loin, qu'on a apprise de façon si fine, on sait à peu près pas comment d'ailleurs. Et quand on se heurte donc à une personne qui est de l'autre côté du mur de la langue, et on se dit vraiment... Il y a un gros paradoxe. Cette langue, c'est censé être ce trait d'union universel absolu. Et là, c'est la chose la plus excluante. Bon, alors cette sensation, on l'a pas forcément dans une langue étrangère. Moi, je fais beaucoup de rencontres en lycée, dans des lycées qui sont pudiquement appelés éloignés du livre, des choses comme ça. Bon, et je me retrouve parfois en face de jeunes gens qui ont la même comment dire le même sentiment de déroute au sens vraiment de la colère presque face à des mots dont le sens n'apparaît pas du tout de façon évidente alors que c'est le mot de leur langue et c'est le cas de plein de mots et ça c'est vraiment ouais c'est vraiment une on a tourné beaucoup et c'était très beau avec Daniel autour de cette question c'est-à-dire que lui Les mots innombrables dans les livres, ça le fascinait, quoi. À la maison, il était complètement attiré par les livres partout, dans la bibliothèque. Puis il y en avait partout. Et donc, il a pris aussi en charge cette question de la littérature, qui était à la fois mon métier, et puis qui visuellement, bon, bah, les livres à la maison, il y en a du sol au plafond. Et alors même qu'il ne pouvait pas les lire, ces livres, et que lui n'a jamais vécu avec des livres. Il a quitté son pays à 12 ans, il n'a même pas un bon niveau, voilà, il sait à peine correctement écrire sa propre langue natale. Et là, voilà, il m'a posé des questions très précises, plus précises que personne, en fait, dans mon entourage, sur ce que je faisais pendant la journée, ça veut dire écrire. Qu'est-ce que tu as écrit? Pourquoi tu as écrit? Qu'est-ce que c'est que la poésie? À quoi ça sert, la poésie? Jusqu'au jour où il m'a quand même rapporté, parce qu'il ramassait tous les meubles à moitié pétés dans la rue, parce qu'il ne comprenait pas que les gens jettent des meubles en France dans la rue. Donc il m'a ramené une penderie comme ça qu'il a posée au milieu du salon en me disant « c'est pour tes livres voilà. ». Et donc pour qu'on ramasse tous les livres qui traînaient par terre et qu'on puisse leur... voilà. Donc c'était une sorte de maison pour les livres dans la maison. Donc voilà, cette question... le hop, c'est la version un peu comique de la chose, mais la version profonde, c'est de son caractère têtu, je veux dire. C'est quand même une grande intuition du lien universel que sont les livres, quand bien même on ne serait pas encore capable de les lire, quoi. Moi, je suis assez convaincue que les livres vont avoir une place dans sa vie par la suite. En tout cas, je veillerai à ce que ce soit le cas.
Mais vous dites bien, effectivement, finalement, l'une des choses qu'il vient opérer sur votre famille et sur vous en particulier, je ne sais pas comment le nommer, est-ce que c'est un décentrement ou est-ce que c'est une façon de s'interroger soi-même? Et ce que vous dites, alors, vous l'évoquiez dans l'enlèvement des Sabines, dans lequel le personnage, finalement, quittait tout pour écrire de la poésie. La poésie, vous en écrivez, et jusqu'ici, vous n'en avez pas publié, et puis, de façon subreptice, puisqu'en fait, on ne l'a pas évoqué, mais ce livre est un journal écrit à la fois au fil de l'eau, je pense évidemment repris pour lui donner la forme de livre pour cette parution, et il est régulièrement et présent, sont présents des poèmes. Et il y a un très bel échange avec Reza, justement, autour de ça. Et on sent bien, c'est au début du livre, où justement vous êtes en train d'écrire de la poésie, qui est manifestement une occupation quotidienne chez vous. Et il demande ce que vous faites, et il vous dit le mot en dari pour la poésie. Et là, vous comprenez instantanément le lien, pour le coup, que ça crée entre vous. C'était pas vraiment une question, mais ça,
Oui, alors, il y a quelque chose d'amusant, c'est que il faut savoir que quand on publie de la poésie contemporaine, je veux dire, personne ne vous lit. Hein. Ça, c'est déjà que les livres, la littérature, les romans se lisent peu, se vendent peu. Mais alors, la poésie, c'est vraiment, c'est terrible, quoi. C'est, bon. Donc là, c'était aussi une chose amusante pour moi de glisser ce qui pourrait faire l'objet d'un petit recueil de poésie, puisque c'est ce que j'écrivais au fil des jours. Donc finalement, ça avait d'autant plus sa place que la seule poésie qui m'intéresse, c'est la poésie qui réalise que tout ce qui compte, c'est la révélation du quotidien. C'est quelque chose de très, très, voilà, qui a à voir avec chaque geste du quotidien. Ça n'est pas ailleurs, c'est pas éthéré. Mais, évidemment, la joie de savoir que du coup, les gens seront obligés de lire cette poésie que par ailleurs, ils n'auraient jamais lu, jamais acheté, me réjouit. Et me réjouit d'autant plus que c'est effectivement un journal, un carnet de bord, un journal intime, et que c'est pour moi la juste place de la poésie. Ça veut dire la poésie, elle est tellement travaillée par l'heure du jour à laquelle on écrit, par ce qui s'est passé la seconde d'avant, ce qui se passera peut-être la seconde d'après, que ça a tout à fait son sens pour moi de consigner comme ça les poèmes à l'endroit où ils tombent, je sais pas comment le dire autrement, où ils tombent dans notre journée, voilà, dans ce cas-là de plus quotidien. C'est très concret en fait l'écriture.
Oui, c'est très concret, et vous dites aussi très bien, vous faites même un poème à ce propos, la façon dont la poésie d'une certaine façon est une deuxième tête. Une deuxième tête présente, matériellement présente en soi, en plus de la tête qui est là, qui vit, qui accompagne, qui fait la cuisine et l'origami.
L'origami, c'est déjà... On est déjà dans la poésie.
Oui, c'est une forme de, c'est une forme de poésie. Alors justement, pour articuler à la fois ce que vous dites autour de votre aventure avec Reza et en même temps de la poésie, vous avez au milieu du livre toute une partie autour de l'idée de cabane. Idée qui vous est extrêmement chère. Alors, et la façon dont vous allez faire de la penderie que ramène Reza une cabane à livres, mais la cabane, c'est à la fois un lieu d'accueil, un lieu de protection, un lieu d'isolement, et vous faites un poème autour de la cabane. Est-ce que vous pouvez me dire, voilà, pourquoi cette image-là de la cabane, et qui par ailleurs est aussi une image littéraire, hein, parce qu'on pourrait faire une histoire des livres où il y a des cabanes, que ce soit chez Calvino ou chez Thoreau, ouais, etc. Pourquoi cette cabane, cette idée de cabane vous est si chère, hein?
Bon, alors là, le problème, c'est que...
Sans pourquoi, parce que...
Oui, de m'assurer, c'est que là, je pourrais vous en parler des heures, des cabanes, parce que pour moi, il n'y a rien de plus important qu'une cabane. C'est pour moi le lieu le plus habitable, le plus enviable. Évidemment, comme refuge, c'est sûr, mais aussi comme lieu imaginaire. Et là, comme il est question d'accueil, il y a une espèce de petite fable à un moment donné dans ce livre, où il est question de maison versus cabane, en gros. La maison étant une sorte de lieu qui a un nombre de pièces, un nombre de mètres carrés, et on ne peut pas pousser les murs non plus. Et ça, c'est des arguments qu'on entend beaucoup, on ne peut pas pousser les murs de l'Europe. Pour accueillir donc toute la misère du monde. Et puis il y a l'idée de cabane qui est incommensurable, qui n'a pas un certain nombre de mètres carrés, qui est le lieu que l'on veut, qui est plus grande que ce que le sol offre, et qui est vraiment la cabane de l'enfance pour le coup. Moi j'avais une vraie cabane quand j'étais petite chez ma grand-mère. D'ailleurs quand j'y repense, ils étaient complètement tarés parce qu'on montait une échelle. Il y avait quand même, je sais pas, 4 mètres d'échelle. On était tout petits. Et enfin, on ne ferait jamais ça aujourd'hui, laisser un enfant de 2 ans monter une échelle de 4 mètres pour aller dans cette petite cabane, qui était une pièce. Voilà, on avait des espèces de je ne sais pas, on avait mis un bout de coussin, des nattes par terre, en paille, etc. Et j'imaginais toujours... en fait, qu'elle était beaucoup plus grande que ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'étais dans la cabane, je me souviens... du tout petit moment de déception au moment d'arriver dedans, de voir qu'en fait, elle n'était pas très grande. Et après, de la joie incroyable que c'était d'être dedans et d'imaginer le lieu que c'était, le château que c'était, tout ce que je pouvais imaginer d'aventure dans cette cabane. Et bon. Donc, moi, la question de la cabane, elle a à voir avec ce qu'est l'écriture. Ça veut dire, il y a forcément l'idée que la cabane, elle est un peu subversive parce qu'elle est forcément sauvage. La cabane, elle n'est pas déclarée. La cabane, on ne paye pas une taxe foncière pour une cabane. On ne paye pas de taxe d'habitation. Donc, il y a de la piraterie, en fait, dans la cabane. Il y a de l'enfance. Il y a du refuge et du silence pour écrire. Et puis, en l'occurrence, dans ce texte, il y a l'idée philosophique de la cabane infinie qui est un lieu d'accueil mental. Et c'est quand même la prétention, disons, de la tradition philosophique européenne de se dire que la force d'une pensée, c'est sa capacité à dialoguer avec d'autres modes de pensée et à ne pas se noyer dans cette contradiction, dans cette altérité, et ben on peut se faire exactement le même, avoir le même discours pour ce qui est du territoire. Ça veut dire qu'il faut être... Il faut être passé à côté de quelque chose pour penser que le territoire n'est qu'une mesure, quoi. N'est qu'une mesure, comme quand à l'école, on nous demandait combien mesure le pré qui fait tant de large et tant de long, et que moi, je ne trouvais jamais la réponse à cette question. Voilà.
Comme la poésie, vous êtes aussi cabane, puisqu'elle est aussi, elle a aussi une dimension, enfin, dimension, ce n'est pas le bon mot, justement, mais un aspect incommensurable d'accueil infini. Alors, pour deux choses encore, certes, Reza est têtu, mais et heureusement, ça fait aussi la profondeur du personnage, il n'est pas sans ambivalence. Il y a deux choses assez belles à ce propos. Vous le dites très bien à quel point la question de la mère, de sa mère, de sa disparition, au sens propre, plane d'abord entre vous, avant que vous ne parveniez à aborder le sujet avec lui, et sachant qu'il y a aussi tout un élément par lequel vous dites bien, dès lors qu'il est malade, dès lors qu'il est encore plus fragile que ce qu'il ne semble être, vous ne pouvez vous empêcher vous-même de vous reconduire en tant que mère à son endroit, sachant que, pour évoquer ce que vous disiez au tout début sur la question du corps, dans la singularité de Reza, il y a aussi le fait qu'il n'a pas du tout le corps de son âge, si l'on veut. C'est-à-dire qu'il a, par l'expérience de ce qu'il a vécu, il est presque sans âge. C'est-à-dire je crois qu'il a 22 ans.
Il a 22 ans, et par exemple, la première fois qu'on allait chez le médecin, elle ne pouvait pas le croire. Elle m'a dit il y a une erreur sur sa carte, parce que là, il serait né en 95. Et elle m'a vraiment dit ça. Puis les médecins, elle voit des corps toute la journée. Et je dis oui, il est né en 95, effectivement, il a 22 ans. Et moi, c'est pareil, la première fois que j'ai vu, je pensais qu'il avait 35 ans. On m'aurait dit qu'il avait 40 ans, ça ne m'aurait pas choqué non plus. Donc oui, et c'est pas évidemment, il y a le corps qui s'est abîmé dans le froid, dans la douleur, etc. Mais il y a quelque chose aussi effectivement qui est pas juste âgé, qui est sans âge, quoi, et qui du coup donne aussi cet air d'une sorte de, je sais pas comment appeler ça, mais de sagesse, quoi. Mais on était parti sur quoi ?
On était parti sur la question de justement la mère et jusqu'au moment où vous essayez de le mettre dans des démarches de retrouver.
Oui, voilà. Alors ça, on n'est pas plus fort que soi. Hein. Donc évidemment, quand on est une mère avec deux enfants et qu'on reçoit un jeune homme dont on comprend très vite qu'il a aucune nouvelle de sa mère, et puis les choses, je les ai apprises au fur et à mesure. C'est-à-dire que vraiment, j'ai mis du temps à comprendre, à savoir et à oser lui poser la question. En fait, je lui ai jamais vraiment posé. J'ai fini par lui dire un jour, mais c'était tard, déjà dans notre rencontre, dans notre cohabitation, s'il avait des nouvelles de sa mère. Donc, en réalité, quand il avait 14 ans, il a dû traverser la frontière pour passer en Europe, donc entre la Turquie et la Grèce. Et il était adolescent. Il avait prévu de passer cette frontière avec sa mère. Et sa mère n'est pas venue au rendez-vous. Mais ça, je ne sais pas pourquoi. Il a jamais pu m'expliquer. Il ne le sait pas lui-même. Et c'était il y a 10 ans. Donc, évidemment, son père est mort, assassiné de façon très violente au lance-roquettes quand il avait 10 ans. Et là, c'est clair, il est mort, et voilà. Et moi, de mon point de vue, je me disais, il ne peut pas ne pas savoir, parce que c'est une chose de faire le deuil, c'est autre chose que d'être dans cette espèce de limbe, je ne sais pas comment appeler ça, mais ça me paraissait plus terrible que tout, en fait, de ne pas savoir si sa propre mère est en vie ou non. Et évidemment, c'était une mère qui parlait, qui ressentait ça. Donc là, c'est sûr que quand on était tous ensemble, je pouvais pas prendre un autre rôle que celui-là. Ça veut dire à la fois, personne ne m'avait demandé d'être sa mère, surtout pas lui. Mais je vois bien que dans les gestes du quotidien, dans le fait de se nourrir, dans le fait quand il était malade, de lui apporter du Doliprane, de lui apporter du thé chaud, de lui demander comment ça va, évidemment que c'est maternel et que ça peut pas être autre chose. Là où j'avais pas compris quelque chose, c'est que quand vraiment on a commencé à faire des démarches pour qu'il retrouve sa mère par la Croix-Rouge, on avait même un interprète en Dari, on avait un rendez-vous prévu, et puis il y a eu un ouragan à Saint-Martin, donc notre rendez-vous a été annulé, et la nana de la Croix-Rouge m'a dit « je suis désolée, là toutes nos équipes sont sur sont à Saint-Martin, on va devoir repousser le rendez-vous ». Bon, donc j'étais désolée, j'annonce ça à Daniel, et je vois qu'il était en fait vraiment soulagé. Alors que l'idée, c'est une branche de la Croix-Rouge qui s'appelle Rétablissement des liens familiaux, qui aide toutes les personnes déplacées dans des conflits, qui ont perdu trace des leurs, qui les aide à les retrouver. Et voilà. Et puis c'est à peu près. Bon, voyant sa réaction, j'ai quand même fini par comprendre, mais j'étais longue à la détente, que c'était tellement important précisément pour lui cette question d'avoir une mère, qui préférait mille fois avoir l'espoir que cette mère était en vie que d'avoir une nouvelle claire et définitive sur le fait qu'elle ne l'était plus. Vu qu'on peut se faire connaître quand même justement par la Croix-Rouge, c'est assez improbable. Enfin, sa mère peut très bien être en vie, peut-être qu'elle se cache en Iran, je ne sais pas, je ne peux pas savoir ça. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, l'espérance qu'il a de sa vie, c'est presque toute son énergie, c'est toute une partie de sa force en tout cas. Donc voilà, j'ai compris que ça, il ne pouvait pas maintenant en tout cas, c'était pas possible de tenir s'il n'avait pas cet espoir-là. Donc voilà, je pense que là, c'est pas la question de faire son deuil ou de ne pas faire son deuil, c'est pas du déni non plus, c'est pas juste ne pas vouloir savoir, c'est se dire que cette présence maternelle, elle le porte et que c'est pas maintenant qu'il peut renoncer à ça, pas après avoir dû renoncer à tant de choses.
Vous dites même à un moment, effectivement, que de toute façon, l'espoir prime sur la réalité, et qu'effectivement, il faut conserver cet espoir, qui a aussi autre moment de trouble assez intéressant, qui est le moment, alors je ne sais plus du cadre exact, mais où dans une réunion, je pense aussi de la Croix-Rouge, vous vous rendez compte qu'il y a d'autres interlocuteurs du Dari, d'autres Afghans, donc vous vous dites enfin, il va pouvoir parler, sortir de cette barrière de la langue contre laquelle il bute tous les jours avec vous, et vous voyez qu'instantanément, il est dans une position de retrait, de crispation, il faut qu'il vous dise pourquoi, pour que vous le compreniez.
Ouais. Oui, parce que moi, pareil, naïvement, je me disais, il entend jamais parler sa langue, ça lui manque beaucoup, il arrête pas de parsemer d'ailleurs ses phrases de petits mots en dari, et je vois que sa façon de le prononcer d'un seul coup, c'est très personnel, c'est pas la même façon de parler, c'est comme une autre voix et tout. Et là, un soir, donc c'était pas la Croix-Rouge, c'était, il allait trois fois par semaine prendre des petits cours dans une assoc qui donne des cours à des migrants à Paris. Et là, j'arrive dans la sauce, et quand j'arrive, on me dit qu'il manque un prof ce soir-là, et si je veux bien rester pour improviser un petit cours, ça serait sympathique. Bon. Donc, je me suis retrouvée, ce qui n'arrivait jamais, dans ce cours avec Reza. Et là, un ami écrivain qui donne des cours dans cette sauce me dit « Ah bah, c'est super, parce que justement, les deux gars qui sont là, non seulement ils sont afghans, mais ils parlent d'Ari. » Donc, j'étais très contente. Je me dis « Va enfin parler la langue de ses compatriotes, sa langue d'enfant, sa chère langue. » Et là, en fait... je crois que c'était en anglais ou en français, ces personnes lui ont demandé d'où il venait. Et là, j'ai entendu Reza répondre d'Asie. D'Asie, du continent asiatique. Donc, c'est très vague, hein, quand même. Et là, j'ai compris qu'il ne voulait pas du tout leur dire qu'il était afghan. Il était très tendu. Et quand on est rentré en métro, on était tous les deux et je ne le voyais pas du tout à l'aise. Et puis, on n'osait pas en parler. Et puis, il a fini par m'expliquer, en fait. Voilà. Par me dire que voilà que les choses étaient compliquées, que en gros, si je dois résumer, en Afghanistan, c'est toute une histoire aussi de guerre civile, de clans, de machin, etc., et qu'il peut pas accorder sa confiance comme ça. C'est pas parce qu'ils sont afghans que qu'il peut leur parler si simplement, sachant qu'il y a cette question religieuse très compliquée, comme il s'est converti. C'est pas quelque chose qui est terriblement accepté, hein, de renier sa religion musulmane pour se convertir. convertir. Donc il se sent menacé par rapport à ça. Et voilà. Et d'ailleurs, je trouve ça complètement fou, terriblement beau et courageux de faire ce genre de choix, comme s'il n'avait pas assez d'emmerdes, de se dire qu'en plus, il ne peut plus profiter de la solidarité de la communauté musulmane afghane en France. Parce qu'au moins, il aurait pu se reformer une sorte de petit groupe, mais même ça, il ne l'a pas. Donc il a vraiment accepté un haut, haut degré de solitude pour faire un choix très voilà, profond, personnel.
Alors, on va bientôt laisser la parole à la salle, à vos auditeurs. Je vous prends parfaitement au dépourvu, mais...
Quand
la bise vient. Oui. Est-ce que ça vous embêterait de lire un petit passage, et en l'occurrence, une poésie? Vous pouvez en choisir une autre. Hein. Je vous propose celle-là.
C'est celle-là?
Mais si vous voulez...
Alors, ce que je vais faire, peut-être... C'est juste vous lire cette poésie, bien sûr, mais le petit passage qui est avant, puisque comme je le disais, c'est quand même, c'était le 3 mars, donc c'est, voilà, c'est planté quand même dans un quotidien. Quand ils rentrent du travail et de l'école, Fabrice et les enfants me disent « Tu as bien écrit ?» Mais ce que j'écris reste caché. J'écris, c'est tout. J'écris et personne ne regarde par-dessus mon épaule. Je lui dis qu'aujourd'hui, j'ai écrit une poésie sur les différentes... Là, je lui dis, c'est à raisin. Je lui dis qu'aujourd'hui, j'ai écrit une poésie sur les différentes langues qui, un jour, ne formeront plus qu'une seule langue. Une langue qui se souviendra de tout, qui aura la mémoire grande ouverte. Vous, lis-moi, me dit Reza. Et bizarrement, docilement, je fais ce qu'il me demande. Comme je fais ce que vous me demandez. Je lui lis la poésie. La voici. Nous écrirons sans la dispute des langues, d'une parole d'air et d'eau, horizon lire des nuances. Une nuque tira sa grâce, un rat ses souvenirs de peste, l'enfant son poème d'Éluard. Les couteaux de Borges revivront leur duel, l'amandier versera la dîme blanche à la beauté. Viendra le règne des métamorphoses, tu seras le livre sur le banc de pierre, l'or élucidé du lichen.
Merci infiniment, Émilie Turckheim. Je vous invite, alors si vous voulez échanger en tête à tête avec l'auteur ou lui faire signer des livres, et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup.
Merci à vous.